A du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, la troisième édition du concours RFI Challenge App, c'est maintenant. Si vous avez une idée d'application smartphone pour faciliter le développement de l'agriculture durable ou de l'accès aux énergies renouvelables en Afrique francophone, ce concours est pour vous. Nous allons tout vous expliquer. Vous pouvez aussi être partenaire de ce concours, comme Edem Dalmeda, qui a fondé l'ingénieuse Africa Global Recycling, une entreprise de recyclage basée à Lomé qui est en plein développement. Et il y en a bien besoin, comme le prouvent les prélèvements réalisés par les scientifiques de la goélette Tara, qui vient de traverser l'immense soupe de plastique concentrée par les courants marins, c'est entre Honolulu et la côte ouest américaine. Mais tout de suite, direction La Réunion. Bienvenue dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent sur RFI.
À l'est de Madagascar, au milieu de l'océan Indien, se trouve l'île de la Réunion, un territoire français au climat tropical où l'agriculture emploie 6,5% de la population, c'est plus qu'en métropole qui en emploie seulement 5%. Mais face à l'urbanisation grandissante, le foncier se fait de plus en plus rare et les jeunes agriculteurs peinent à trouver des terres. Alice Milot est allée à la rencontre de Julie Deveau, 27 ans, et de Mathieu Huet, 26 ans, qui ont malgré tout décidé de se lancer dans l'aventure.
Alors là, on est aux avirons, on est au sud-ouest de l'île de la Réunion. Donc là, on est à 900 mètres d'altitude. On est plus exactement au Tevlav. C'est une zone agricole.
Pour arriver jusqu'à votre ferme, il faut prendre un chemin improbable. Il faut tournicoter au milieu des champs de canne à sucre pour arriver jusqu'ici. Mais la récompense est là parce que, en fait, vous avez un point de vue absolument splendide sur l'océan.
Oui, en fait, on est à la montagne, mais on voit la mer. Mais vers 17h, on a le coucher de soleil. Et c'est mes poules qui en profitent puisque j'ai un élevage en plein air. Du coup, elles sont dehors et elles voient le coucher de soleil.
On va les voir ?
Ouais, on va les voir.
Et ça fait son ça, la rosée prend pas de si. Midi ça fait son ça, la rosée prend pas de si. Côté ça fait son ça, la rosée prend pas de si. Midi ça fait son ça, la rosée prend pas de si.
Là en fait c'était l'exploitation de mon papa.
C'est là où vous avez grandi alors ?
Oui. Et du coup là il y avait son ancienne étable, il était éleveur de vaches laitières. Bah bientôt, il y aura une bergerie, puisque nous, on a on a un atelier ovin et un atelier poule pondeuse.
Mais vous n'avez pas voulu reprendre les vaches ?
Non, non, non. Pour moi, les vaches, c'est trop... Enfin, il y a trop de contraintes. Déjà, à la base, je ne voulais pas être agricultrice. J'avais toujours dit jamais ce métier, parce que papa, il a toujours été H24 sur son exploitation. On ne l'a presque pas vu. Au final, notre enfance, on n'a pas été comme les autres enfants. Enfin, je suis pas allée en vacances, je suis pas allée à la plage. Pourtant, vous voyez, de là, on voit la mer. Mon premier resto, je l'ai fait à 18 ans. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que cette vie-là, j'avais pas envie de la voir.
Ça a été quoi le déclic ?
J'étais agent de transport. En fait, je surveillais les enfants dans les bus scolaires. Ben voilà, t'as toujours un parent qui vient te dire « Oui, pourquoi tu as crié sur mon enfant pour qu'il mette sa ceinture ?» Enfin voilà, t'entends des choses comme ça tous les jours. Et puis en fait, mon conjoint, il était mécanicien agricole. Donc il allait sur des exploitations et tout. Et puis il me disait « Tu sais, les agriculteurs, ils travaillent plus du tout comme ton papa. Hein. Enfin, ils sont modernes, ils ont une belle vie. » c'est vrai qu'ils travaillent du lundi au dimanche, mais c'est pas toute la journée. Donc voilà, tout le temps, il me disait des trucs comme ça. Ensuite, y avait papa qui devait prendre sa retraite. Et le terrain, le foncier, il allait être dans la main d'un étranger, en fait. Et puis je lui ai dit, je vais aller voir, peut-être que je vais faire la formation.
La formation agricole.
Oui, il fallait passer des tests d'entrée. Donc là, déjà, j'étais étonnée parce que je me suis dit, quoi, pour travailler dans l'agriculture, il faut passer des tests d'entrée? C'est un truc de fou. Ben oui, effectivement, il fallait passer des tests d'entrée puisque ben, l'agriculteur n'était pas le dernier des métiers. La plus bête personne qui n'avait pas réussi ses études était ben, agriculteur. Ben non, c'est plus du tout ce cas-là. Donc déjà, à mes yeux, ça a valorisé le métier. Après là, c'est vrai que j'avais peur parce que je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarquée? Comment je vais faire avec des animaux? Parce que j'ai toujours été un peu popote, très féminine. Même moi, j'y croyais pas en fait. Et ensuite, ben, je suis allée en formation. On a commencé à faire les travaux pratiques avec les animaux et tout. Et là, j'ai vu que j'ai aimé. Et ben voilà, c'est venu comme ça en fait. En fait, je savais pas que j'aimais ce métier-là. Et en fait, ce terrain-là, il était à mon grand-père. J'avais pas envie de perdre ces terres-là. Parce que c'est vrai qu'à La Réunion, les terres sont très très rares, les terres agricoles. C'est pas du tout comme dans l'Hexagone, hein, ici.
Pourquoi elles sont rares? À cause de la configuration de l'île?
Oui, ben, l'île est petite et puis on a beaucoup d'urbanisation. On a de moins en moins d'agriculture.
C'est vrai que quand on traverse l'île, on voit qu'il y a des maisons partout en fait. Hein.
Oui.
Surtout sur cette partie-là.
Oui, là sur l'ouest, oui, on n'a pas beaucoup d'agriculture. Déjà sur ma commune ici, il faut savoir que les Avirons, c'était la première commune agricole de l'île. Et maintenant, on doit avoir au maximum 10 agriculteurs.
Hein. Alors qu'à l'époque de votre grand-père?
Il y avait au moins une centaine d'agriculteurs. C'était énorme. Donc on a de moins en moins de terres.
Ça veut dire que ne peut être agriculteur que les enfants d'agriculteurs?
C'est triste à dire, mais oui, c'est un peu ça. Parce que si on n'est pas de ce milieu-là, je ne vois pas comment on va avoir un terrain. En plus, après, il n'y a pas que ça comme problème. Il y a le problème où les anciens ne veulent pas prendre la retraite aussi. Parce que ils vont avoir une retraite de 400 euros. Donc,
ils repoussent
la date de la retraite. Pendant ce temps-là, les enfants ils vieillissent. Donc, ils font autre chose. Voilà, après nous, ici, en centre de formation, chaque année, il y a plus d'une centaine de diplômés. Mais ces diplômés-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Hein. Parce que déjà, moi, sur ma session de formation, je suis la seule qui a été installée en coopérative. Et avec les aides européennes, la DGA et tout. Donc, pour vous dire que c'est très compliqué pour un jeune de s'installer. Souriez, monsieur, madame, souriez. Où devient plus belle quand on a le sourire? Souriez, monsieur, madame, souriez. Zot les plus rayonnants avec zot jolie sourire. Souriez, monsieur, madame, souriez. Où devient plus beau quand on a le sourire? Souriez, monsieur, madame, souriez, zot les plus rayonnants avec zot joli sourire. Oui, alors là, on descend vers le poulailler, mais on va se désinfecter les pieds avant.
Avant de rentrer.
Avant de rentrer avec la station de désinfection.
Donc en gros, c'est un tuyau d'arrosage. Hein.
Oui, voilà.
Donc je mets les chaussures où?
Alors en fait, je vais pulvériser par terre. Voilà, il y a une mousse désinfectante et là, vous marchez dedans.
D'accord.
Voilà, là, on tue toutes les bactéries.
Alors, donc là, c'est le tout nouveau bâtiment, le tout nouveau poulailler.
Là, vous voyez les investissements. Donc là, on a un panneau sur le poulailler. C'est une condition quand on bénéficie des aides FEADER. Donc, c'est écrit, les investissements pour la construction d'un bâtiment volaille de 660 mètres carrés ont été cofinancés par l'Union européenne. L'Europe s'engage à La Réunion avec le Fonds européen agricole pour le développement rural. Donc, grosso modo, le poulailler, il m'a coûté à peu près 300 000 euros et j'ai eu 100 000 euros de fonds européens. Donc là, on voit les poules qui sont dehors.
Oui.
Yo, la clé, elle n'est pas là?
Ah oui, donc là, c'est leur enclos extérieur,
là,
en fait.
Là, c'est leur enclos extérieur. Donc, elles sont sorties à 11h et elles vont rester dehors toute la journée. Elles vont re-rentrer ce soir quand il n'y aura plus de lumière du jour elles vont revenir dans le bâtiment et les trappes vont se fermer. Et Rebelote, demain, ça va se réouvrir à 11h. Je pense qu'elles ont quand même une belle vie, hein. Elles sont en liberté. Là, il y a du soleil, le temps est magnifique. Elles ont à manger, à boire, à volonté. Donc par jour, on récolte à peu près 4500 œufs. Puis moi, je travaille avec Matine.
La marque.
La marque Matine, les œufs plein air, les gros œufs plein air de Matine. Déjà, c'est même pas une coopérative Matine, hein, c'est plus un groupement d'éleveurs. Et oui, ils étaient demandeurs, surtout en plein air, vu la... En ce moment, c'est un peu complexe parce que dans l'Hexagone, les magasins ne veulent plus acheter d'œufs en cage. Et en fait, il faut savoir qu'à l'île de la Réunion, tout ce qui se passe en Hexagone, 10 ans plus tard, ça va arriver ici. Donc, c'est vrai qu'on a essayé de prendre de l'avance. Ici, on ne fera plus d'œufs en cage, ça c'est sûr, puisqu'en métropole, ils sont en train d'arrêter. Donc là, on investit dans du plein air ou dans du bio. Les gens pensent que les producteurs, ils sont là que pour gagner de l'argent et ils s'en fichent des animaux. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, hein. Faut pas croire ça. Parce que moi, j'ai mal au cœur quand j'enlève une poule qui est morte, qui s'est étouffée dans mon bâtiment, hein. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est insensible quand ils vont à l'abattoir ou quoi que ce soit. Nous, ce qu'on se dit, c'est que le peu de temps qu'ils ont vécu, eh ben, ils l'ont bien vécu.
Sur la serre parce qu'il pleut quand même. Entrez. Alors bon, encore une fois bienvenue, désolé pour le temps. C'est assez humide quand même comme endroit, du coup j'ai l'habitude avec la pluie, mais après il fait plus ou moins chaud. C'est un temps humide mais
tropical,
voilà, c'est un peu ça.
Parce qu'ici on est à quel endroit en fait de l'île?
Alors on est dans le sud sauvage à Saint-Joseph sur lieu dit Vincent Do. On est à 400 mètres d'altitude. Et du coup, voilà.
On est en fait ici au pied du volcan. En fait, c'est la fin du volcan ici.
Voilà. C'est la fin du volcan. Voilà.
Piton.
Du piton, voilà. Ouais. Et puis, bon, par rapport au boulot, c'est pour ça aussi que d'ailleurs j'ai décidé de m'installer en serre. Parce que j'avais envie de faire du maraîchage. Mais ici, maraîchage plein champ, c'est très limité justement par rapport à ce temps humide. Et on est dans une zone qui est quand même pas mal exposée au vent. Du coup, il faut abriter les plantes. Et j'ai choisi les serres. Beaucoup de vent aussi, par exemple, les plantes comme les tomates dehors, avec beaucoup de vent, les têtes, elles se cassent plutôt facilement.
Ça m'a pas fait tout seul, oui, ça m'a pas fait tout seul. Côté madame, ça m'a pas fait tout seul.
Je suis Mathieu Huette. Agriculteur, j'ai 26 ans, je me suis installé en 2015 en canne à sucre et maraîchage plein champ et hors sol à La Réunion. À savoir que moi je me suis installé en 2015, j'ai repris une partie de l'exploitation de mon père.
Pourquoi c'était une telle évidence pour vous que c'était ça votre vocation ?
Écoutez, depuis tout petit, déjà, je le suivais dans les champs. Je voyais que j'aimais vraiment ça, hein, moi. Je l'ai toujours aidé depuis tout petit. Alors, pour accéder aux autres CA, c'est un petit peu vallonné, du coup, parce qu'il n'y a pas longtemps, on a subi des intempéries, phénomènes météorologiques.
Un cyclone, hein.
Un cyclone, voilà. Et l'eau a emporté une partie du chemin. Du coup,
tout est parti, là.
voilà, tout est parti, c'est descendu plus bas, un peu dans les cannes, un peu partout. Du coup, là, il faut refaire. Mais le cyclone, il est passé environ 2 mois. Bon, après, bon, bah, c'est le temps de remettre chaque petite chose en place.
Et alors là, sur notre droite, cette belle canne à sucre.
Voilà, c'est de la canne à sucre. Celle-là, elle a été coupée tout juste à la dernière semaine de fin de campagne. Du coup, au mois de décembre.
Donc là, il reste plus que le feuillu, en fait. Hein.
Voilà, le feuillu. Là, elle commence à repousser un bout de canne, mais celle-là, il faudra pour la couper. Elle sera arrivée à maturité pas avant décembre également. Bah, il faut. C'est le cycle, c'est 12 mois. Du coup, voilà.
La canne à sucre, c'est vraiment une culture qui est très agréable parce que c'est très rafraîchissant, surtout quand il fait chaud ici.
Ouais, c'est très rafraîchissant. Après, elle apporte beaucoup de CO2 aussi à Lille, parce que c'est la principale production de l'île. On est environ 3000 planteurs. Il y a une odeur de sucre quand on la coupe. Du coup, ben, cette odeur-là, comme elle m'est familière, moi, ça, j'aime bien. Et c'est ce que j'aime bien dans le début de campagne, à chaque fois, sentir cette odeur.
Alors voilà.
Qu'est-ce que vous avez là, à la main ?
À la main, c'est un sable. C'est l'outil principal pour couper la canne ici, à la main, manuellement. Du coup, ce qui se passe, c'est que ça, ici, on appelle ça le chou. Ça, c'est la canne, justement.
Donc la tige.
La tige, voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut couper tout en bas.
Au pied de la tige.
Au pied de la tige, voilà.
Et il faut le faire pour chaque tige.
Ah oui, voilà, il faut le faire pour chaque tige. C'est d'où la difficulté. Parce que quand on voit, il y en a pas mal déjà, alors quand c'est comme ça. Et quand on imagine ça sur des hectares et des hectares... ça devient dur. Bien plus de la moitié des gens sont encore manuels. Moi, pour mon cas, je suis encore manuel. Parce que pour le moment, j'ai encore de la main-d'œuvre. Oui, voilà, parce que ça aussi, c'est un autre fléau sur l'île, par exemple. On trouve de moins en moins de main-d'œuvre dans la canne à sucre. Parce que bon, bah, c'est dur quand même. Faut dire que c'est dur quand même de couper la canne manuellement. Et puis... si on passerait mécaniquement, pas toutes les parcelles de l'île par rapport aux pentes et tout, pas toutes les parcelles peuvent être mécanisables. Ici, on livre à l'usine, Tereos.
Vous livrez à l'usine ?
Comme ça.
La tige, la matière première, et après, voilà. C'est eux qui transforment.
Ah voilà, toute la transformation, c'est de leur côté. Voilà.
Mais alors, il n'y a qu'une seule usine sur toute l'île qui commercialise toute la canne à sucre de l'île ?
Il y a un seul groupe, après il y a deux usines. Il y en a une dans le sud, au Gol. Et il y en a une à Bois-Rouge.
Il n'y a pas de concurrence alors ?
Ah non,
ils ont le monopole.
Ils ont le monopole, voilà, c'est ça, ouais. C'est exactement ça.
Mais du coup, ils peuvent fixer leur prix alors ?
Ah ben, c'est exactement ce qu'ils font d'ailleurs. C'est un gros combat l'année dernière avec justement les collègues et avec JA, les jeunes agriculteurs.
Le syndicat.
Le syndicat, voilà. Ouais, parce que le prix n'avait jamais changé en fait. Et puis on a pu obtenir... une augmentation, mais qui reste quand même minime comparé à toutes ces années que le prix n'a jamais changé en fait. Et c'est difficile quand on compare les charges et le chiffre qu'on fait avec la canne, on est limite. Hein. C'est pour ça que beaucoup d'ailleurs maintenant, de plus en plus, ici on va vers une diversification quand les gars ils ont la canne à sucre. En général, à côté, ils ont toujours un petit atelier CA ou un atelier animal aussi, hein, quelconque. Hein, mais bien souvent, il y a un petit complément sur le côté. Papy, où ?
Papa est en bas en train de parler avec un bisou.
Papa, un bisou ? Dans le bus, il a fait des bêtises ?
Il est... Benjamin est obligé de le dire. Arrête, Mathéo, arrête de dire des bêtises.
Il a quel âge, votre fils ?
Il a 3 ans.
Et alors vous l'emmenez avec vous dans les serres ?
Oui, souvent. Alors depuis, même quand c'est les vacances, quand on est sur l'exploitation, ben, il me suit un petit peu partout, il aime bien.
En tout cas, vous aimeriez bien qu'un jour il reprenne ?
Ça me ferait énormément plaisir. Pour la continuité, pour garder le lien familial sur l'exploitation, de dire qu'en génération en génération, on a pu créer ça. Et puis bon, ben, moi j'ai eu la chance d'avoir un outil déjà prêt à travailler. Lui, il aura, s'il sera amené à reprendre, il aura un outil qui lui aussi sera prêt à travailler, et encore mieux forcément, car avec le temps, on améliore l'outil du coup, forcément.
C'était un pied, la partie partout.
route, ça va pas.
C'était un plan. Un plan, j'étais là. Et après, là, il est allé bord.
L'avion, il vole. Laisse-le voler. 6 heures va sonner, il va trouver son garage pour l'y poser. L'avion y vole, laisse-le voler. 6 heures va sonner, il va trouver son garage pour l'y poser. L'oiseau bélier y rôde, laisse-le rôder. Maï va venir zone, il va gagner pour l'y béquer. L'oiseau bélier y rôde, laisse-le rôder. Maï va venir zone, il va gagner pour l'y béquer. Si un jour mi mort, terre à moins sous pied camélia, la racine va tisane à moins, et le fleur va emporter tu. Si un jour mi mort, terre à moins sous pied camélia, la racine va tisane à moins, et le fleur va emporter tu.
On est en train de surconsommer. Du coup, il y a beaucoup d'importations qui rentrent. Les gens, bah, ils pensent au prix. C'est ça le gros problème ici, c'est que en fait, les produits qui rentrent à La Réunion, les produits d'importation, ils sont beaucoup moins chers que les produits locaux. Tout ça parce que bah, nous, on a beaucoup plus de charges.
Parce que vous dépendez de la législation française, en fait.
Oui, voilà. Alors que les produits d'importation, ils viennent beaucoup des pays de l'Est, qui n'ont pas les mêmes normes que nous. La Nouvelle-Zélande, le Brésil, l'Afrique, enfin, voilà. Et nous, bah, tous ces produits-là, ils rentrent ici. Ce sont des produits déclassés. Donc, des produits qu'eux, ils jettent, que même là, même s'ils vendent à perte, ils s'en foutent, parce que ils ont, déjà, c'est des exploitations énormes.
Pour vous, c'est une concurrence déloyale, en fait.
Ah ben oui, c'est sûr que c'est déloyal. Hein. Les grandes industries vendent ça à perte, mais nous, ici, ça nous tue, nous, producteurs. Et les gens, ben, ils pensent à leur sous. Bon, c'est normal. Hein. Et puis, le panier de la ménagère, ici, il n'est pas très élevé. On a beaucoup de chômage. Après, je comprends aussi le consommateur. Hein. Il se dit, ben, pourquoi le produit, il est à La Réunion et il est plus cher alors qu'il n'a pas eu de transport. C'est vrai que pour le consommateur, enfin, c'est compliqué hein, à comprendre. Hein.
Est-ce que vous avez perçu des aides spécifiques aux jeunes agriculteurs ?
Ben, en fait, quand je me suis installée, j'ai bénéficié de la dotation jeunes agriculteurs.
Qui sont des aides européennes ?
Oui.
Qui dépendent de la politique agricole commune.
Voilà, pour aider le jeune à avoir une trésorerie le temps qu'il se lance dans son exploitation.
C'était combien ?
Après, à La Réunion, c'est très élevé. Hein. C'est plus élevé qu'en métropole. Hein.
Pourquoi ?
Parce que la vie est plus élevée.
Plus chère.
Plus chère. Donc ici, le minimum qu'on peut toucher, ben, c'est 20 000 euros. Jusqu'au ben, le plafond, c'est 50 000 euros. Après, voilà, comme je vous disais, c'est plusieurs critères. Donc moi, j'ai touché 36 000 euros. Au début, je trouvais qu'il y avait beaucoup de contraintes. Surtout au niveau paperasse, parce qu'il y a énormément de choses à remplir. Après, je ne pense pas que ce soit la faute de l'Europe. Parce que moi, je pense que l'Europe, ils disent, ben voilà, là, la France, vous avez cette enveloppe-là pour l'agriculture. Donc, à vous de dispatcher. Sauf qu'après, c'est l'administration française. Et ben, ils aiment la paperasse. Hein. Ça se balance de bureau en bureau. On ne sait pas qui s'occupe de quoi.
Ça vous a fait perdre un temps important.
Ah oui, oui, oui. Et le temps que la machine se mette en place, on a 4-5 mois qui passent. Et pendant ce temps-là, vous vivez avec rien. Donc ça a été un gros souci pour nous. Après, ben voilà, j'ai reçu ma DGA. Ça m'a beaucoup aidé, oui. Mais avec tous les dossiers qu'on a à payer pour s'installer, justement, les dossiers d'entreprise, enfin les plans d'entreprise, les plans d'épandage. En fait, il y a tellement de normes françaises. En fait, j'ai l'impression qu'ils ne savent même plus quoi faire. Du coup, tout ça, bah, c'est payant. J'ai eu 10 000 euros de frais de dossier. Donc, après, vous voyez, il ne vous reste pas grand-chose pour pouvoir survivre le temps que votre exploitation tourne.
Aujourd'hui, vous avez un chiffre d'affaires positif.
Oui, oui. Mais je n'arrive pas encore à me faire de trésorerie, par contre. Mais quand à 17h, 17h30, je vois le coucher de soleil, Je me dis que ouais, c'est une chance de vivre ici. Quand j'étais en métropole, j'avais plus de repères parce que je voyais pas la mer. Donc j'étais perdue. Ici, on peut pas se perdre. Hein. Si on est en haut, on cherche la mer, on descend et voilà. Donc c'est pour ça, ici, c'est magique.
Quand moi la quitte mon pays, moi la partie jouer la musique. En arrivant par l'avion là-bas, moi la trouve un joli Sega. Les olives ressemblent au Mumba, mon créole tape son conga. Mais la mésire, ça n'est pas pareil, mais l'île est doux à l'oreille. Avec un bol orchestre comme maman tropina, piano, guitare, trompette, sax, clarinette, conga. Les tomes, les maracas, les claves et contrebasses. La main, les assirés, qui m'a fait bouse mon carcasse. Comme un laquette mon pays. On a parti jouer la musique. En arrivant par l'avion là-bas, moi la trouve un joli Sega. Wouté!
De l'environnement sur RFI.
Le continent de plastique, c'est une modélisation. Personne n'est capable aujourd'hui de dire en temps réel le centre du Great Garbage Patch, il est là. En gros, il n'y a que des observations visuelles qui permettent de dire là on est dans le centre, là on ne l'est pas. Donc les scientifiques se basent sur des estimations du courant, de vent. Il y a des cycles aussi qui sont liés à El Niño, par exemple, qui font que selon les années, il va se retrouver plus au nord ou plus au sud, ou plus à l'est ou plus à l'ouest. On va passer dedans, c'est sûr, hein. Quoi qu'il arrive, on passera dedans, on ne peut pas le rater. L'idéal, c'est de passer pile poil au centre, là où la concentration est la plus forte. C'est un peu comme l'œil du cyclone, quoi. Donc voilà, nous on va par là, et en attendant, si on peut faire de la voile pour aller par là, eh ben, ça sera très bien. Le problème, c'est qu'on consomme un peu de gasoil en attendant. Et ça, pour une goélette qui sauve la planète, c'est pas terrible.
Des nouvelles de la goélette scientifique Tara, qui depuis 2 ans parcourt le Pacifique pour évaluer l'état des récifs coralliens, des récifs qui souffrent de la pollution et des conséquences des changements climatiques. L'équipage se trouve actuellement entre Honolulu et la côte ouest des États-Unis. C'est là, comme l'expliquait à l'instant le capitaine Johan Mouchery, que se trouve le vortex de déchets du Pacifique Nord, une véritable soupe de microplastiques mitonnée par l'homme, par nous quoi, puisque nous rejetons chaque année 8 millions de tonnes de plastique en mer. La difficulté, c'est tout d'abord d'identifier où se trouve le centre de ce tourbillon de déchets pour ensuite les analyser, comme nous l'explique Maria Luisa Pedrotti. Elle est chercheuse en biologie marine au laboratoire océanographique de Villefranche-sur-Mer et elle répond à Samuel Bollendorf.
On arrive au cauchemar du patch nord-pacifique. Voilà, regarde ça. Il y a beaucoup d'insectes, il y a des petits gastéropodes, mais le reste, c'est des plastiques. Tu vois, on est en train d'aller dans notre cimetière. Le cimetière de notre mondialisation. On est déjà dedans depuis hier. Et là, on tente vraiment de cibler le centre par rapport à la dernière publication de 2018. Là. Et par contre, les données datent de 2015-2016. Mais on a les cartes des courants, on a les cartes des vents, on a la chlorophylle, on a le fer, la température, la salinité. Si on considère que le gros patch est 6 fois la France et qu'il bouge en latitude, en longitude, ça fait que le vent peut déplacer les concentrations de plastique. Alors, il ne faut pas s'imaginer que c'est une île qui va être déplacée partout, mais à l'intérieur, on a certaines concentrations de plastique qu'on ne voit pas d'ailleurs. Là, depuis le bateau, hein. Mais elles sont très légères. Et du coup, on pense que c'est vraiment le vent qui peut être un facteur principal de leur dispersion. Mais déjà là, c'est pas mal. Hein. C'est qu'on a trouvé ce matin. Si je peux te donner une concentration juste comme ça à l'œil nu, parce que pour l'instant, on n'a pas compté. C'est qu'on a trouvé ce matin en une demi-heure. C'est le double de ce qu'on trouvait pendant une heure avec Tara Méditerranée dans des zones qu'on considérait des hotspots. Ça veut dire que des zones assez contaminées. Alors, quand les concentrations de plastique ne sont pas importantes, on se dit, bon, pourquoi on fait ça? Mais quand maintenant on trouve des trillions, 51 trillions de particules qui se baladent dans l'océan, c'est des potentiels vecteurs pour des espèces invasives, des espèces pathogènes et des espèces toxiques qui peuvent se balader, tu vois, d'un bout à l'autre de l'océan, jusqu'en Arctique ou Antarctique, et qu'on ne le voit pas, tu vois, de l'œil. Parce qu'elles sont toutes petites, la majorité, 94%, c'est des tout petits plastiques, la taille d'un grain de riz.
Pour les 5 scientifiques à bord de Tara, experts en plancton et en plastique, les analyses démarrent dès 7h30 tous les matins. Ils collectent leurs matières premières grâce à des filets qu'ils laissent traîner à l'arrière du bateau. Ils les relèvent 4 fois par jour. Ensuite débute le patient travail d'analyse qui commence par séparer le plancton du plastique. Tout cela se passe au sec, comme nous l'explique Niels Aijens, étudiant en océanographie à l'Université du Maine.
Ici, nous sommes dans le dry lab, ce qu'on appelle le dry lab de Tara, donc le labo sec. C'est un labo où on a un certain nombre d'instruments qu'on essaie de garder au sec et dans lesquels on fait tourner ou bien des échantillons ou alors on a tout un système de tuyauterie avec une pompe qui nous permet d'analyser l'eau dans laquelle on passe en continu. Voilà, là on voit un très beau dino flagellé à l'écran, un ceratium, c'est la cellule qui est verticale. Et juste au-dessus, il me semble qu'on voit une cellule de Kaitoceros. Là, par exemple, on vient de voir un paquet de plastique passer à l'écran. Puis après, là, les petits bouts de plastique, ça ressemble souvent à une espèce de polygone et c'est assez transparent. Et parfois, ils ont des petits points noirs avec, quand ils sont colonisés. Et toutes ces images derrière, elles vont être classifiées par une intelligence artificielle et puis validées manuellement une à une. Mais alors, quand elles sont préclassifiées par une intelligence artificielle, ça va beaucoup plus vite. Ça nous permet de quantifier et puis connaître la composition de l'eau en phytoplancton et puis en plastique, agrégats et autres particules qui sont dans l'eau. Et voilà, donc quand on boit la tasse, on boit un paquet de... Il faut savoir que dans 5 ml, des particules comme celle-là, dans un domaine côtier, on va en avoir jusqu'à plus de 10 000. Donc les morceaux de plastique qu'on voit là, on les boit directement, en fin de compte, juste en buvant la tasse, en nageant en bord de mer.
Alors, envie d'une bonne gorgée de plastique, pensez-y à chaque fois que vous voyez un déchet plastique traîner quelque part. Ramassez-le, mettez-le dans une poubelle, sinon il finira dans la mer et peut-être dans votre estomac ou dans celui d'un poisson que vous mangerez. Tara continue son périple scientifique au programme Route vers La Paz en Bolivie pour de nouveaux prélèvements de récifs coralliens.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
On voit bien que nos progrès techniques ont amené un problème grave, dont vont particulièrement souffrir sûrement les pays du Sud, mais les pays du Nord aussi. Mais tous les pays actuellement ont des difficultés énormes à mettre en œuvre les techniques qui permettraient d'éviter les catastrophes. Et c'est une des grosses difficultés de notre espèce, c'est que justement, du fait de ce progrès, elle se croit tout permis, elle croit que tout est possible. Or, je pense qu'il faudra bien qu'on apprenne à se fixer des limites.
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
La 3e édition du concours RFI Challenge App est en cours et cette année, c'est sur le thème du développement durable. Bonjour Sina Toussaka.
Ah, bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes chef de projet éditorial à la direction des environnements numériques du groupe France Média Monde qui regroupe entre autres RFI et France 24. Et c'est vous qui pilotez ce concours. Alors de quoi s'agit-il?
Le RFI Challenge App Afrique est une compétition qui vise à développer des solutions mobiles ou web innovantes dans un domaine qui pour nous à RFI représente un enjeu de développement. Le but de cette compétition est en fait de favoriser le développement durable en Afrique à travers le développement d'applications mobiles ou de tout autre service numérique permettant d'accroître l'accès aux énergies renouvelables.
Oui, parce que cette année, les thèmes retenus, c'est l'agriculture durable et l'accès aux énergies renouvelables. Mais il y a eu 2 éditions précédentes déjà sur d'autres thèmes.
Exactement. Alors oui, la première autour de la santé qui a primé une très très belle application de télémédecine au Mali, Bogou. Et la seconde, Lucie, créée par Aïssa Banro, une jeune Ivoirienne qui souhaitait innover en matière d'alphabétisation fonctionnelle.
C'était sur le thème de l'accès à l'éducation pour les filles.
Exactement.
C'est ça. Et alors donc cette année, on le disait, les deux thèmes sont l'agriculture durable et l'accès aux énergies renouvelables. Donc il suffit d'avoir une idée d'application smartphone dans l'un de ces domaines. Est-ce qu'il faut aller un peu plus loin que l'idée ou l'idée suffit ?
Alors l'idée suffit. Déjà, nous on entend par application toute solution qui pourrait se décliner sous forme de site web aussi, d'applications mobiles, de services SMS, en tout cas toute autre forme de service numérique. Et vous pouvez proposer des idées de projets, des projets plus ou moins aboutis. Le plus important pour nous, c'est la qualité des projets.
Voilà, et donc, qu'est-ce qu'on gagne à ce concours ?
On gagne une enveloppe de 15 000 euros qui servira à développer le projet. Donc, les 15 000 euros, ce n'est pas pour le gagnant, mais ça va servir à développer le projet.
Et puis, RFI s'engage évidemment à une forte médiatisation du gagnant, à travers ses pas du vent, évidemment, mais pas seulement. Alors, qui peut participer ?
Tout le monde peut participer. Le concours est ouvert essentiellement aux entrepreneurs parce que RFI souhaite encourager et soutenir l'innovation, souhaite promouvoir les startups et les développeurs africains qui ont un rôle à jouer aujourd'hui en matière de développement sur le continent. Donc tout le monde peut postuler, quelle que soit la taille de votre entreprise, que vous soyez personne physique ou personne morale, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du concours.
Et donc il faut que ce soit quand même en Afrique francophone, on ne l'a pas précisé.
Exactement, le projet doit être en français et vous pouvez très bien être francophone mais résident au Ghana par exemple, vous pouvez postuler à ce concours-là, mais l'essentiel c'est que le projet soit en français.
Alors ce concours a de nombreux partenaires, dont Global Africa Recycling. Bonjour Edem Dalmeda.
Bonjour Anne-Cécile Bras, Africa Global Recycling.
Vous êtes le fondateur de cette entreprise de recyclage basée à Lomé. Vous êtes en ligne avec nous depuis la Tunisie où vous êtes actuellement. Et vous avez fondé donc cette entreprise en 2013 avec quelle ambition ?
Alors l'ambition de répondre d'abord à une problématique qui est celle de la gestion durable des déchets au Togo, mais plus largement en Afrique. Et puis la volonté d'être utile à mon pays, puisque la volonté politique était là de faire appel, en guillemets, à cette diaspora de venir contribuer à l'effort national. C'est ce que j'ai essayé de faire modestement.
Quel est le principe ?
Alors, le principe d'Africa Global Recycling, c'est surtout de reprendre la totalité des déchets recyclables, de leur trouver des filières de valorisation. Nous sommes le premier centre du pays multifilière en ce sens. Mais surtout, il s'agit d'une philosophie qui vise à construire tout un nouveau modèle économique et social autour de la gestion durable des déchets dans notre pays et encore une fois au-delà, en Afrique subsaharienne.
Et donc, vous récupérez les déchets des entreprises, vous les revendez à d'autres personnes, ce qui fait que ben, finalement, les déchets sont rémunérés aux donneurs.
Les déchets sont rémunérés, effectivement. Alors, jusqu'à présent, c'était les entreprises, mais nous ouvrons davantage le marché informel, certains particuliers, des écoles. L'idée, c'est de préparer les déchets. Nous sommes des préparateurs de déchets pour qu'à la sortie de notre chaîne, ces déchets soient prêts à être réintégrés dans de nouveaux process, donc chez de nouveaux industriels. Et puis ensuite, dans le cadre donc de cette économie circulaire qui correspond à notre ADN, c'est de rémunérer le producteur du déchet pour le déchet qu'il a produit, pour la valeur que nous avons sur le marché.
Alors au début, vous ne recycliez que du papier et du carton, mais en 5 ans, votre activité s'est fortement développée.
Absolument, absolument. Nous avons démarré timidement avec du papier. Aujourd'hui, nous en sommes à plus d'une trentaine de types de papier et carton différents, en plus d'une quinzaine de résines plastiques différents. Nous démantelons des déchets d'équipements électriques, électroniques, également le verre que nous avons commencé, avec une plateforme directement qui est implantée directement sur notre site, puisque même la taille de notre terrain a dû s'adapter.
Aujourd'hui, vous êtes quand même sur 2500 m² et bientôt, vous allez vous intéresser aux déchets organiques. Il y a déjà un projet de compost, enfin un programme de recyclage du compost à Lomé. Vous allez vous associer avec eux ?
Tout à fait, nous sommes en train de regarder toutes les possibilités. Notre volonté, c'est d'associer d'autres acteurs, ce n'est pas du tout de nous substituer à eux, mais c'est d'associer d'autres acteurs et de voir comment, en toute synergie, nous pouvons répondre plus efficacement aux différentes problématiques que nous rencontrons sur les différents types de déchets. En tout cas, nous n'avons pas de limite aujourd'hui en termes de déchets, d'objectifs, sur le Togo ou même ailleurs.
Et combien de salariés vous employez aujourd'hui? Quels sont leurs profils?
Alors, l'entreprise compte 30 salariés actuellement. Nous sommes d'ailleurs en plein recrutement. Les profils, nous avons aussi bien des ouvriers peu qualifiés ou pas du tout, une main-d'œuvre pas qualifiée, mais très compétente et qui représente le gros de notre personnel. Et puis, depuis quelques mois, nous devons aussi faire face au développement que nous connaissons, à la structuration de la société. Donc, nous avons de plus en plus des personnes de plus en plus qualifiées dans le juridique, dans le commercial, dans le développement, dans la logistique, qui intègrent la société. Donc, on peut retrouver dans une usine ou dans une entreprise de gestion, de valorisation de déchets, tout type de profil, finalement, qu'il soit qualifié ou non.
Alors, est-ce que c'est pour cela que vous avez eu envie de repartir sur le continent africain, parce que vous avez découvert le monde des déchets en travaillant pour une multinationale française? Vous auriez pu rester en France, finalement?
J'aurais pu rester en France. C'est vrai qu'il arrive encore des jours où on se dit qu'est-ce qu'on fait là par rapport à certaines réalités, malheureusement, qui ne nous permettent pas de progresser assez vite. Mais comme je l'ai dit, c'est d'abord aussi l'amour d'un pays, l'amour d'un continent, la volonté de réussir. Et puis, je me retrouvais assez mal à l'aise ou peut-être malhonnête d'avoir acquis des compétences, d'être connu dans mon activité en France et plus largement en Europe, et de ne pas pouvoir le mettre au profit de mon pays.
De votre pays et d'autres pays, puisque vous avez des projets dans d'autres pays de la sous-région?
Oui, nous avons une ambition panafricaine. Le Bénin est une première étape, la Côte d'Ivoire également. La Côte d'Ivoire et le Bénin sont aujourd'hui des pays qui montrent de vrais signes de volonté politique en termes de gestion durable des déchets et de valorisation. La Côte d'Ivoire a toujours été avant-gardiste et donne aussi un cadre qui permette aussi le développement des entreprises innovantes comme la nôtre. Donc, c'est un début. Nous avons l'ambition d'ouvrir d'autres pays dans les 5 ans qui viennent. Tout cela fait partie d'un grand plan de développement.
Alors, quels sont les principaux freins aujourd'hui à l'extension de votre activité?
Alors, le principal frein, je dirais que c'est le refus des gouvernants ou des décideurs à traduire non seulement la volonté politique, mais aussi tous les mécanismes d'accompagnement des entreprises comme la nôtre en matière de gestion des déchets. Et le deuxième frein, c'est le fait qu'ils doivent absolument prendre la mesure qu'il s'agisse d'un fort domaine de création d'emplois durables, décents, de relais économiques très importants pour les pays. À partir de ce moment, je pense que tous les feux seront ouverts pour un développement rapide, non seulement d'Africa Global Recycling, mais de permettre aussi l'émergence de plusieurs initiatives de femmes et de jeunes qui n'attendent que ça et qui ont des potentialités énormes sur le continent.
Mais vous me disiez que les mentalités sont en train de changer, justement. Le regard sur les déchets et sur la création de cette filière économique sont en train d'évoluer.
Absolument, absolument. Vous savez, le déchet n'a pas toujours été abordé avec l'angle anthropologique ou bien culturel. Or, vous touchez au déchet quand vous êtes un raté et que vous n'avez plus rien à faire dans la vie. Mais maintenant, à développer un sentiment d'appartenance de nos collaborateurs, par exemple, c'est aussi un challenge, mais aussi accompagner, demander, en tout cas à sensibiliser les populations. Nous l'avons fait à travers les écoles, à travers un projet qui s'appelle « Moi, je trie » et qui montre des signes très encourageants. En deux mots, « Moi, je trie » consiste à faire intervenir l'enfant chez lui comme outil d'éducation.
Ambassadeur.
Comme un ambassadeur, en mettant en place le tri sélectif d'abord dans les écoles. Donc, nous avons touché ainsi plus de 5000 foyers aujourd'hui. Nous rentrons dans un plan très ambitieux qui s'appelle 100 écoles et moi je trie. C'est 90 000 foyers dans lesquels nous allons envoyer des enfants à travers l'école sensibiliser leurs parents. Et qu'est-ce que nous notons comme résultat? Puisque ces enfants viennent régulièrement avec leurs écoles triées chez nous, avec nos collaborateurs, nous voyons un changement de mentalité très important. Nous voyons des parents qui commencent à nous appeler. Écoutez, on a fait du tri sélectif ce week-end à la maison. Est-ce que vous passez? Comment peut-on faire? Nous avons des personnes qui vont au travail le matin et qui font un détour par le centre pour venir déposer un sac sans demander à être rémunérés. Donc, vous voyez, les choses sont en train d'évoluer. Maintenant, il y a les réalités sociales qui font qu'il y a encore une couche très importante qui vit dans la misère, je ne parle pas de pauvreté mais de misère, et à qui il faut plus apporter une incitation financière plutôt qu'une leçon de morale sur l'environnement ou la planète.
Bien entendu. Alors pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'être partenaire de cette troisième édition du concours RFI Challenge App?
Alors, pour nous, l'atteinte des objectifs de développement durable ne saura se faire que si la démonstration est faite que chaque jour, sa rentabilité pour les États, avec la promotion des champions locaux et nationaux, sont avérées. Et pour que le développement soit durable, il faut qu'il soit soutenu. Et pour nous, RFI Challenge App répond pertinemment à cette philosophie que nous développons. Faire la promotion de l'entrepreneuriat n'est plus suffisant. Il faut faire la promotion de l'entreprise et de son développement. Et c'est ce que Sinatou a expliqué tout à l'heure sur l'objectif de ce concours, d'aider au développement, au déploiement des solutions qui sont portées. Et l'Afrique, nous le savons, regorge d'énormes potentialités. Et je veux juste rajouter deux choses. Nous avons deux profils en Afrique. Nous sommes soit des pompiers pyromanes, soit très clairement des rugbymen. Alors, des rugbymen parce que nous savons nous approprier les essais, nous savons les réaliser, nous sommes capables et nous sommes programmés pour réaliser à partir de ces essais que nous nous approprions de vrais sauts technologiques. Je ne vais pas revenir sur l'exemple du téléphone ou de la banque mobile ou du taux de pénétration Internet, mais nous sommes aussi des pompiers pyromanes parce que nous avons le don de trouver toujours les bonnes solutions pour anéantir les bonnes solutions. Et donc, tout ceci mis ensemble, je pense qu'RFI a, je dirais, cette capacité non seulement de porter la voix de ces jeunes qui doivent être aidés, mais aussi de mobiliser davantage les consciences sur les potentialités africaines. Voilà ce que j'ai envie de dire et ce qui me motive pour être partenaire de la troisième édition de ce concours RFI Challenge App.
Merci beaucoup Edem Dalmeda. Sinatou Saka, les candidatures de partenaires ne sont pas closes non plus pour ce concours.
Non, loin de là, vous aviez encore quelques jours pour participer, mais n'attendez pas le dernier moment, tout se passe sur le site appafrique.rfi.fr.
Voilà. Alors que l'on soit candidat ou que l'on soit partenaire.
Exactement, vous pouvez toujours nous contacter via la page contact de ce site-là et je serai ravie de vous répondre.
Voilà, ou par mail, c'estpasduvent@rfi.fr. Merci à tous les deux, merci Sinatou Saka et à très vite pour la suite de cette aventure.
À bientôt, merci.
Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur notre application Pure Radio ou sur le site internet de RFI, onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.